Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Et les Jets de New York ont congédié Robert Saleh après un fiche de 2 victoires puis 3 défaites, deuxième dans la division.
C'est quand même sévère, non? Puis il n'y avait pas une si mauvaise fiche avec l'équipe, le 20 et 36. Mais c'est pas super, là.
C'est pas fameux, non.
Mais c'est pas un... catastrophique. Non,
mais c'est une organisation perdante depuis environ 10 ans. Mon chum, exact. Daniel Tremblay, m'avait dit que lui pensait que les Jets étaient pour le vrai cette année, puis peut-être qu'il a raison, puis il allait gagner peut-être la division, mais moi je pense que les Bills vont gagner la division.
Ouais,
mais
oui,
là
oui.
Aussi, hey, as-tu vu la semaine passée, là, Josh Allen, il se fait frapper, puis cogne sa tête par terre, ben, sur le terrain, là, boum, tu vois, là,
Gilbert.
Commotion cérébrale, là, tu le vois.
Mm-hmm. Gilbert est pas content, c'est Bills, là. Il n'est pas de bonne humeur.
Puis retourne, mais écoute.
Ça va pas si bien que ça à Buffalo.
Mais moi, je te dis que le gars a poigné sa tête. Toi, tu me dis que l'autre gars, il n'est pas content.
Ben oui, mais
c'est à lui qu'on doit penser.
Pour moi, ça fait partie du football, Tony. Honnêtement, je comprends la commotion cérébrale, mais au nombre de contacts qu'il y a dans un match de football, ça me surprend pas. Là.
Ben, dis le gars qu'il y a 2 semaines, il voulait enlever le contact de tout sport confondu. Là, tu dis, ben, ça fait partie du football.
Il repart.
Hey, on a Denis?
Non, mais on va pas. Oui, on a Denis, mais on va pas changer le sport non plus.
Hein. On va parler avec Denis Gauthier dans notre segment Abs Radio. Salut, Denis, comment ça va?
Salut Tony, salut messieurs, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien, Denis. Salut, toi, Denis. Écoute, tu nous as dit que tu connais Joshua Roy, puis évidemment, on sait que tu étais dans son coin. Tu voulais vraiment que ce gars-là réussisse, puis écoute, sa carrière n'est pas finie encore, là. Il a juste 21 ans, là. Il a une belle carrière devant lui. On va commencer par ça. Es-tu surpris que le Canadien l'a retranché, puis il s'en va à Laval?
Ben, pas tant. Tu sais, si on a vanté qu'on voulait avoir une culture du mérite à Montréal, on était conséquents. Donc, pour moi, même si j'étais un fervent, j'étais un amateur du Joshua, son talent, le joueur, faut que je sois quand même honnête et dire qu'il n'y a pas eu de meilleur camp. Il y a des joueurs qui l'ont dépassé au camp d'entraînement. Donc, pour moi, tu sais, faut se rappeler, il y a 21 ans, c'est un gars qui a eu une ascension très, très, très rapide dans les rangs juniors, qui était un des meilleurs joueurs juniors au pays à sa dernière année à 19 ans. Il a connu quand même une saison plus que respectable à Laval l'année passée, une belle progression, mais ça y a mérité un rappel et des matchs à Montréal. Cela dit, Joshua Roy est un gars qui avait des habitudes de travail à travailler. Quand il est arrivé junior, a changé beaucoup à Sherbrooke sous Stéphane Julien qui l'a pris sous son aile puis qui a montré, qui l'a amené à ignorer son côté professionnel. Moi, tout ce que j'entends, puis j'étais pas avec durant l'été, je suis pas un gars que je côtoie, mais mes fils le connaissent. De tout ce que j'entendais, c'est un gars qui durant l'été avait pris les choses au sérieux à Montréal, mais tu sais, ça a toujours été derrière la tête des dépisteurs, des dirigeants du Canadien, que Joshua Roy avait quand même beaucoup de maturité à prendre chez les rangs juniors, mais c'est un gars pour moi qui avait fait des bonnes choses, des bonnes progressions de ce côté-là, de son côté maturité professionnelle, mais cela dit, le travail sur la glace n'a pas été long. Fait que tu sais, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une question de surconfiance, mais il reste que il a pas mérité d'être là, puis c'est de la bonne décision, je pense. Puis il faut se rappeler, il a 21 ans, c'était pas garanti qu'il était pour être avec les Canadiens de Montréal parce qu'il a joué une poignée de matchs l'année passée, puis il a bien fait, il a impressionné dans les 20 quelques matchs qu'il a joué pour les Canadiens. Mais tout est à recommencer. Puis quand t'es jeune comme ça, des fois un petit relâchement va te coûter des matchs de naissance, va te coûter un poste, comme on a vu Jack Hyde dans le passé le faire, le retourner à Laval est revenu, a bien fait. On a vu même Armia, qui est un vétéran l'année passée, qui a dû faire un séjour à Laval, lui aussi, a répondu à l'appel lorsqu'il était revenu à Laval. Donc pour moi, il n'y a pas de panique dans son cas. C'est un jeune qui est en apprentissage. J'espère juste qu'il va prendre la situation en main. Il va aller à Laval avec une bonne attitude, bonne éthique de travail. Puis si c'est le cas, ça sera pas long. On va le voir à Montréal, je suis convaincu. Il y a trop de talent pour rester là s'il fait toutes les bonnes choses.
Si je ne me trompe pas, puis je peux me tromper, là, je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'ai mangé il y a 2 jours. Là. Mais toi, tu voyais Logan Mailloux avec le Canadien pour débuter la saison ou je me trompe?
Moi, au début de la saison, je pensais que oui. Plus le camp avançait, je trouvais ça difficile. À la fin, dans la dernière semaine, je trouvais que c'était un candidat pour... c'était certainement un candidat dans la dernière semaine pour être rétrogradé. Donc, quand on avait commencé... pour faire les prédictions de camp quelques jours là de la date limite d'hier, moi, je voyais pas Mayu débuter le camp d'entraînement. J'ai juste trouvé qu'il a joué beaucoup trop sur les talons du Real Camp. Un peu trop prudent, pas beaucoup, en fait, pas d'identité dans son jeu. Tu sais, puis s'il y a une chose, c'est que Logan Mayhew, qui est à son maximum, a une identité, c'est un gars qui patine, qui est physique, qui a un bon lancer, qui aime prendre un peu des risques sur la patinoire. J'ai juste trouvé que c'était tout sauf ça au camp d'entraînement dans le cas de Mayhew. Il a pas été affreux, mais n'a certainement pas pris charge de sa situation et de l'opportunité qu'il avait devant lui. Donc, pour moi, pas surpris, j'étais un peu déçu qu'il soit à Laval, parce que j'aurais aimé qu'il prenne charge puis qu'il se gagne un poste puis qu'il mérite un poste, mais c'est mérité dans son cas. Même chose que Joshua Roy, pour moi, question de temps, s'il se prend en main puis il prend les choses sérieuses à Laval, va avoir un rappel et va avoir une longue carrière dans la Ligue nationale.
On parlait hier, Denis, mais Logan Mayhew, il a arrêté beaucoup de son développement aussi là à cause du COVID puis sa suspension puis ces choses-là, puis il avait joué dans la GoHL, tu sais, écoute, il a raté plusieurs matchs au niveau junior, là.
Oui, mais tu sais, on n'a pas parlé l'année passée quand les choses allaient bien pour lui.
C'est vrai.
C'était pas une excuse l'année passée pourquoi ça le deviendrait cette année. T'sais, fait que moi, ça, regarde, j'adhère pas à ça. Il est pas tout seul sur la planète que son règne junior a été mis sur pause pendant une saison. Tous les jeunes juniors de cet âge-là, qu'il y en a qui sont maintenant dans la Ligue nationale, il y en a qui sont dans les Américaines aujourd'hui, mais... Tout le monde a passé par là. Il y en a qui ont juste répondu. Il y en a que ça les a affectés plus que d'autres. Mais dans le cas de Mayhew, je ne blâmerais pas ça du tout parce que l'année passée, c'était pas un facteur. Fait que cette année, pour moi, on devrait même plus parler de cette histoire-là.
Journée de thérapie pour Jaden Struble hier, mais Anthony McCutt nous dit Justin Barron est le 7e défenseur à l'entraînement du Canadien aujourd'hui. Mm-hmm. Jack Eye à gauche avec Struble à sa droite forme le 3e pair. Tes impressions, ces deux gars-là qui vont jouer ensemble, puis Struble à droite?
Ah, écoute, je voudrais pas être nécessairement celui qui joue régulièrement contre le troisième paire de défense, parce que c'est une paire de défense qui est très physique. C'est sûr que Jack Eye, s'il joue comme a joué son dernier match contre les Saints, pour moi, c'est le Jack Eye que je veux voir, que je reconnais, qui est capable de jouer au hockey, qui est patient dans ses décisions, mais mobile, bouge la rondelle, est physique quand c'est le temps, puis aussi acheter les gants, mais de façon très intelligente. Et Struble, qui est un défenseur lui aussi très mobile, très physique. Je pense que c'est mérité dans ce cas-là. Dans le cas de Barron, qui est devenu 7e, bon, normalement, on aurait peut-être pensé, parce qu'il est droitier, que ça aurait été un poste mérité pour lui, puis que c'est un poste assuré, mais si on y allait nécessairement avec ce que Struble a fait au camp d'entraînement, j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire à droite. C'est pas facile, toujours, pour les défenseurs gauchers de jouer à droite, de jouer de leur autre côté. Point de vue sortie de zone et de recevoir les attaques, c'est un petit peu différent. Les angles viennent différemment. Il doit utiliser son revers beaucoup plus souvent lorsque tu joues sur ton côté inversé. Donc, ça te met à risque, mais si t'es un bon hockey sense et t'as une bonne lecture de jeu, tu vas être capable de t'en sortir. Donc, pour moi, j'aime voir ce duo-là, surtout dans un match d'ouverture contre Toronto, où on risque d'avoir un match qui est plutôt émotif. Je pense que c'est une belle combinaison, mais tu sais, il va y avoir une rotation pour les 5, 6, 7e défenseurs dans la troisième paire de défense. Puis, il y a peut-être même un moment donné qu'Hudson va se mêler à ce groupe-là. Même s'il est dans le top 4 aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites baisses de régime au cours de la saison. Peut-être qu'on voudra lui donner une journée ou un match ou deux de congé. Mais entre Jack Eye, Barron et Struble, pour moi, ça va être une belle compétition à l'interne. Puis, je suis content que Struble soit parmi les 6 partants à cause que je parlais tantôt que la culture du mérite, puis on veut que les babines suivent les bottines suivent les babines. Ben, garde. On est conséquent, c'est Struble qui mérite de commencer le match numéro 1 de la saison.
Renaud Lavoie et Anthony Martineau, puis Renaud Lavoie puis les gars de TVA Sports, ils ont les images de Jaden Struble. Je viens de te parler qui était à droite, Denis Gauthier, de Arber Jack Eye. Il vient de quitter l'entraînement. Donc, Struble, hier, c'est une journée de thérapie. Aujourd'hui, il embarque sur la patinoire. Il fait un 15-20 minutes, et là, à un moment donné, il doit quitter. Évidemment, c'est pas bon signe. Il a testé quelque chose, puis il a vu que ça allait pas, puis il a quitté. C'est dommage. Denis, on va parler de l'avantage numérique, là. Tu sais, 0 en 30, là, c'est drôle parce que je disais à Alex, là, Hier, j'étais avec Jean Perron, puis Guillaume Latendresse, puis Maxime Lapierre. On était à Poche Bleue, puis on parlait de l'avantage numérique 0 en 30. Il me semble que c'est Guillaume qui a fait le commentaire. 0 en 30, il dit c'est un match en avantage numérique. C'est une façon de voir les choses, là. Mais écoute, c'est sûr que si l'avantage numérique des Canadiens marque 3 buts, tout le monde va oublier le 0 en 30, là. Ouais. Mais 0 en 30, là, c'est pré-saison, oui, c'est vrai. Ça vaut rien, là. Mais moi, je m'en souviens pas avoir vu ça dans ma vie, là. 0 en 30, là.
0 en 30, puis c'est pas 0 en 30, nécessairement, il faut faire attention, parce que c'est pas la première unité qui a joué tous les matchs. Donc, tu sais, on a eu club B et C à durant quelques matchs, mais tu sais, la première unité de l'avantage numérique, donc l'unité à Slavkovski et compagnie, pas Slavkovski, mais à Suzuki et compagnie, je pense, sont 0 en 15 ou 16. Tu sais, fait que ça, bon, c'est-tu moins pire? Oui. C'est-tu bon? Non. Tu sais, on s'entend. Puis c'est pas juste 0 en 30, c'est moins 1 en 30. On a accordé un but. Je me trompe pas, au sénateur d'Ottawa, alors qu'on était en avantage numérique. Donc, on a accordé plus de buts qu'on a marqué en 30 occasions durant le camp d'entraînement. Ça, c'est pas nécessairement un signe qui est très positif. J'ai hâte de voir c'était quoi la théorie en essayant dès le début de match, surtout si on pensait qu'on donnerait pas une tonne de répétitions à nos vétérans, à nos meilleurs joueurs, parce qu'on a peur qu'ils se blessent. De changer tous les schémas, de mettre Caulfield à droite, alors que c'est Suzuki normalement qui est là, puis qui est un très bon joueur au flanc droit de l'avantage numérique, qui est un très bon passeur, puis moi je le trouve très bon parce que c'est une double menace. C'est une menace de tirer avec un tir du poignet, on le veut marquer souvent dans le haut du filet avec un bon tir du poignet en descendant de la zone alors qu'il reçoit une passe du défenseur en plein milieu, ou il y a toujours l'option de passer soit au bumper, le joueur d'un milieu, ou à Caulfield de l'autre côté. C'est toujours une double menace. Caulfield, sur son côté inversé avec le tir sur réception, est un meilleur tireur que passeur. Alors, pour moi, il y a des décisions qui ont été prises durant le camp d'entraînement, puis c'est correct, j'adhère à ce qu'on veut faire des tests, mais il n'y avait absolument rien de concluant, il n'y avait pas d'exécution, il n'y avait pas de confiance, il n'y avait pas de... On dirait que les schémas étaient encore très, très, très brouillons. Donc, il n'y a rien de rassurant, je te dirais, avant le premier match de la saison. Comme tu dis, si on marque un ou deux buts demain dans le match d'ouverture, ben, regarde, on va se dire on a paniqué pour rien, comme on fait souvent dans les médias, on analyse et on suranalyse, puis peut-être qu'on a tort. Mais en date d'aujourd'hui, avant le jour 1, je te dirais qu'il y a des inquiétudes à avoir au niveau de... Parce que l'avantage numérique, si le Canadien veut être dans le mix en bout de ligne, faut pas se compter de mentir. Il va falloir que l'avantage numérique fasse partie de l'équation, puis qu'il y ait un certain succès. Je vois qu'il soit mieux qu'à 16% durant la saison. Puis nos meilleurs joueurs devront nos meilleurs joueurs dans ces facettes-là. Puis même avec un très bon avantage numérique, on n'est pas garanti d'être dans le mix, soit être en série. Fait que c'est des facettes de jeu qui sont importantes de ne pas prendre à la légère. Puis l'important aussi de commencer la saison du bon pied. Dans toutes les facettes, mais aussi sur cette unité d'avantage numérique-là, c'est... Tu fais jamais une série éliminatoire au mois d'octobre, mais tu peux prendre un pas envers te sortir rapidement puis toujours jouer du rattrapage le reste de la saison. Donc, ouais, ton avantage numérique va te permettre de rester à flot, de gagner un ou deux matchs des fois qui vont un peu moins bien à 5 contre 5, mais tu réussis juste à rester à flot, puis ton avantage numérique va en marquer un, va en marquer deux, ou va en marquer... trois au cours d'une période de deux ou trois matchs, puis tu vas aller chercher un 2 à 3 points de plus au classement qui vont te garder dans la course plus longtemps. Donc, tu sais, négligeons pas l'impact d'un avantage numérique, et moi, j'espère qu'on a réussi à trouver un certain synchronisme, parce que je l'ai pas vu durant les matchs de début de saison, surtout du premier unité.
Première vague pour, évidemment, commencer la saison, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Kirby Dach, puis Michael Matheson. Deuxième vague, Armia, Newhook, Gallagher, Barry Boulet et Lane Hudson. On entend Martin Saint-Louis sur le potentiel de cette unité-là en deuxième vague d'avantage numérique.
Tu sais, t'as Lane qui est très dynamique en haut, t'as Gally qui est en dedans, t'as Armia qui est capable de lancer puis est très intelligent, t'as Barry Boulet qui est capable de faire des jeux, t'as Newhook qui a sa vitesse. Il est capable de lancer une tête aussi. Fait que c'est des éléments qu'on aime. Puis là, comment qu'on peut faire ces éléments-là venir ensemble. T'sais. Puis c'est une partie de la game qui est importante. C'est un groupe qui, pas nécessairement, qui vont partir beaucoup d'avantages numériques, mais il faut qu'ils soient, faut qu'ils fassent partie de notre avantage numérique. Là, t'sais, là. Fait qu'on va continuer à travailler sur des concepts avec eux autres, puis ça va prendre le temps que ça prendra, mais ils amènent tout quelque chose.
Denis, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a une bonne deuxième vague, mais c'est mince, hein?
C'est très mince. Ça démontre la profondeur à l'attaque du Canadien présentement, puis que on aurait aimé qu'un gars comme Josh Roy fasse l'équipe, puis soit son meilleur, parce que c'est un gars qui aurait contribué à améliorer cette position-là. Mais regarde, on a ce qu'on a, il faut vivre avec, puis c'est une reconstruction. Il faut s'attendre à ça. Puis tu sais, c'est intéressant de la façon de penser, parce que c'est vrai, quand t'es à l'avantage numérique, t'es un entraîneur, tu sais, tu veux des éléments clés, tu veux un tireur, un passeur, un gars qui a une tête, un gars qui est capable de bloquer devant le fusil. Fait que toutes les pièces du casse-tête sont là, mais tu sais pas si c'est tout du même casse-tête. Tu sais, si les morceaux vont tous agir ensemble. Fait que les éléments sont là pour avoir certains succès, mais tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas si la chimie va opérer. Fait que c'est ça que Martin dit quand il dit: t'sais, je ne sais pas ce que j'aime de cette unité-là. Individuellement, il y a des bons éléments. Collectivement, il ne sait pas encore. Il va falloir le mettre à l'épreuve, puis l'essayer, puis t'sais, faire des petits changements ici et là au besoin s'il voit certaines choses. Mais t'sais, on le sait dans le passé que le Canadien, avec la première unité, t'sais, il y a des bons éléments. Il y a eu une période où ils ont eu du succès. À la fin de saison, deuxième moitié de saison, j'ai l'impression qu'on avait trouvé une recette qui était un peu plus gagnante. Mais en fait, deuxième unité, t'sais, je souhaite que la première unité fasse le travail. Parce que j'aime les gars individuellement, mais j'ai pas tellement confiance que c'est eux qui vont contribuer de belle façon.
Il y a 5 ans, Josh Anderson avait marqué 27 buts pour les Blue Jackets de Columbus. 5 ans plus tard, il n'est pas sur l'avantage numérique des Canadiens, ni sur la première vague, ni sur la deuxième. Un gars comme Armia est là, un gars comme Barry Boulet est là, un gars comme Gallagher en fin de carrière, il est là. Martin Saint-Louis l'a pas mis là. Il l'a mis en désavantage numérique.
Ben, écoute, il n'y a pas tort de ne pas le mettre. Quand tu fais un avantage numérique, là, faut que tu aies une patience, faut que tu aies des lectures de jeu, faut que tu sois capable de voir des lignes de passe, des lignes de tir, faut que tu sois capable de te démarquer. T'sais, c'est pas juste du jeu de corridor, puis tirer au filet, puis aller frapper dans un coin de patinoire. C'est l'effort de Anderson lorsqu'il est à son meilleur, puis de charger le filet en entrée de zone. Il n'y a pas beaucoup de ces éléments-là qui vont être très utiles en avantage numérique. On s'entend. Puis tu sais, Anderson, c'est le genre de gars qui a beaucoup d'outils, mais le coffre d'outils, il n'en a pas pour amener tout ça. T'sais. Fait que son hockey sim, c'est moyen, sa vision est moyenne, et ses performances ont été moyennes au cours des dernières saisons. Fait que tu sais, pourquoi le mettre, j'ai l'impression qu'on l'a vu, on l'a regardé, on l'a testé, ça n'a pas marché, on passe à d'autres choses, puis c'est correct. Mais il y a quand même des qualités. Si tu penses qu'il est capable de couper des jeux, qu'il est capable de bloquer des tirs, puis tu as un avantage numérique, il faut le valoriser quelque part. Parce que si tu fais juste, tu gardes Anderson à 5,4 millions de dollars, à juste jouer à 5 contre 5, tu vas jouer 8 minutes par match, 9 minutes, 10 minutes par match, tu vas à un moment donné, tu vas manquer un peu de... Tu vas manquer l'occasion de le valoriser, de se faire sentir bien, puis c'est certain qu'il ne donnera pas le meilleur de lui-même. Donc, il faut lui trouver un rôle, puis là où on a plus le besoin présentement, c'est d'avoir des gars de talent en avantage numérique, puis lui, il ne fit pas dans cette catégorie-là. C'est
aussi simple que ça. As-tu vu le rapport de Kevin Weeks ce matin? Le scoop de Kevin Weeks?
Sur le gardien Shesterkin?
Il a refusé une entente de 11 ans, 88 millions.
8 ans, Tony.
Excuse-moi, 8 ans 88 à 11 millions par année. Excuse-moi, exact. Oui, évidemment. Pour ne pas avoir des contrats d'11 ans, là. C'est 8 ans, c'est le maximum. Là. Mais 11, je suis en train de lire son tweet au moment qu'on se parle. 88 millions sur 8 ans, 11 millions par saison, qui ferait de lui le gardien but le mieux payé dans l'histoire du hockey, évidemment. Parce qu'avant ça, c'était Carey Price, là, puis Bobrovsky à 10,5. Il a refusé. C'est quelque chose, hein?
C'est quelque chose, puis pour vrai, t'sais, un autre gardien qui essaie de rétablir la barre pour les salaires de gardien de but. C'est peut-être le gardien qui est le mieux positionné pour faire briser la banque présentement, mais t'sais, pour moi, 11 millions, c'est déjà briser la banque, on s'entend. Je ne sais pas comment gourmand qu'on décide d'aller. Tu joues peut-être dans le plus gros marché de hockey sur la planète à New York, au Madison Square Garden. T'as un certain levier, je dirais, parce que tu joues dans ce marché-là, puis c'est une super vedette, puis c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le meilleur gardien, mais c'est un des meilleurs gardiens depuis quelques années. Regarde, tant mieux pour lui s'il est capable, mais à un moment donné, la limite, faut que se situe quelque part, puis ça devient de plus en plus de la science et prouvé que c'est quand tu dépenses tout ton argent sur un gardien de but, mais c'est pas gage de succès que tu vas gagner une coupe Stanley. Fait que si à un moment donné, tu veux être salarié ou tu veux gagner une coupe, parce que si lui réussit à avoir 11,5, 12, 13 millions, ça va être de plus en plus difficile pour les Rangers de bien l'entourer avec des joueurs de position à l'attaque et à la défensive. Il faut être compétitif et de gagner une coupe Stanley. Donc pour moi, ça, c'est un élément qui est très important qui doit penser et qui doit réfléchir à voir si ça vaut la peine de se mettre pour ce petit million de plus par année. Et l'autre chose que ça me dit, c'est maudit que le contrat de Carey Price était trop gros, trop vite. Il est encore à 10,5 au moment où il l'a signé, puis c'est encore le gardien mieux payé plusieurs saisons après. Ça veut dire qu'on a surpayé puis qu'on a fait beaucoup, beaucoup de... On a fait des décisions qui étaient peut-être émotives et un peu trop grandes, trop vite à Montréal.
Denis, toujours un plaisir de te parler, puis j'ai tellement hâte de te parler jeudi, puis évidemment, parce qu'on va pouvoir parler du match des Canadiens et des Leafs, et même à faire de la prévision du match entre les Canadiens et les Bruins. Salut à jeudi, Denis.
Bonne journée, tout le monde.
Salut, mon champ. Le voilà.